messieurs, dames, au panorama économique de ce week-end, votre émission qui vous offre une rétrospective de l'actualité économique de la semaine. Agathe Mpona et Lema vous la présentent. Au menu de cette rétrospective, la présentation cette semaine par l'Office congolais de contrôle du document intitulé « Tarif général des prestations de l'OCC », un document qui n'a pas rencontré l'assentiment des opérateurs économiques. Un autre sujet cette semaine, ce sont les décisions prises par le Premier ministre au port de Matadi pour lutter contre la fraude et fluidifier le trafic à cette frontière réputée être la plus chère du monde. Nous aborderons également dans cette émission l'augmentation de la production à la minière de Bakwanga, une production qui est passée en quelques temps du simple au double. Panorama économique, vous le savez, fait chaque week-end des analyses et des commentaires avec un invité au studio. Et notre invité aujourd'hui est un habitué de l'émission, il s'appelle Tassine Soungani. Bonjour Tati.
Bonjour Agathe.
Paul Matendo nous accompagne également dans cette rétrospective. Bonjour Paul.
Bonjour Agathe.
Et à la mise en onde, Alain Goy, tout de suite, les dossiers de la semaine.
Panorama économique, le dossier.
Le premier dossier de la semaine part de l'Ituri en province orientale où plus de 400 véhicules transportant diverses marchandises ont été bloqués en début de semaine dans deux barrières routières érigées par les populations au poste frontalier de Maegi Centre à 200 km au nord de Bunia. Plus de détails avec Paul Matendo et José Menga.
À quoi est liée cette situation, José Descartes Menga?
Oui, Paul Matendo, d'abord, il faut dire tout de suite que ces manifestants exigent la réhabilitation de l'axe routier Bunia-Maagi à partir des recettes recouvrées par le Fonds national d'entretien des routes, FONER. Pour les manifestants, ce service perçoit des grosses sommes d'argent sans pour autant réhabiliter les routes. Leur action paralyse ainsi toutes les activités au poste frontalier. Et cette situation dure, Paul Matendo, depuis mercredi dernier.
Y a-t-il une voie de sortie de cette crise?
Pour la Fédération des entreprises du Congo, FEC, et la société civile de Maagi, principale organisatrice de ce mouvement de contestation, il faut que le FONER débloque l'argent pour réparer les routes. Et à cet effet, le directeur général de l'Office des routes est arrivé ici à Bunia hier dimanche en provenance de Kinshasa. Dans sa suite, il y a deux députés nationaux de Djougou et de Maagi, deux territoires traversés par cette route. Le DG de l'Office des routes a annoncé que le FONER a mis à la disposition de son entreprise 850 000 dollars américain pour réparer cette route.
Dites-nous, José, quand est-ce que les travaux démarrent?
Herman Moutima, le DG de l'Office des routes, indique qu'il a envoyé les premières machines vers Maagi depuis samedi dernier, ce qui n'approuve pas du tout la FEC et la société civile qui récusent l'expertise de l'Office des routes. Pour elle, c'est-à-dire la FEC et la société civile, l'Office des routes utilise des vieilles machines acquises d'une ONG internationale. Elles estiment qu'il faut d'abord désigner une autre entreprise qui va exécuter les travaux. À cela, l'honorable Dieudonné Oupira, élu de Maagi, ajoute qu'il faut d'abord aussi évaluer le coût total de travaux qui peuvent aller au-delà des 850 000 dollars. Enfin, pour ce parlementaire, il faut un audit sur 500 000 autres dollars décaissés l'année dernière, toujours pour réparer la même route, Paul Matendo.
Merci beaucoup, José Descartes Menga.
Et nous revenons dans ce studio avec Tati Tsungani qui est notre analyste de ce week-end. Dans ce panorama, il a suivi avec beaucoup d'attention ce dossier. Qu'est-ce que ça vous dit quand on recuse une grande entreprise comme l'Office de route et qu'on met en doute sa capacité de réparer les routes?
Bon, c'est un signe du temps, d'autant que ce n'est pas la première fois que l'Office de route, y compris le programme national pour l'assainissement et même l'OVD, ont été mises en cause dans les projets, les programmes d'assainissement, notamment routiers de la République démocratique du Congo. Donc c'est la particularité, c'est que maintenant, il y a une prise en charge des personnes. C'est les Congolais maintenant. Et ce qui est étonnant, c'est que derrière les Congolais, il y a quand même une corporation des patrons, le patronat congolais.
Oui, la FEC.
La FEC, c'est assez énigmatique. Donc moi, ce que je me dis, c'est que oui, on a toujours décrié, on l'a dit dans les... on lit ça dans la presse, et tout le monde fait des déclarations incantatoires. Mais pour une fois, il y a quand même des gens qui se sont mis dans la route pour barrer la route à ceux qui prétendent donner des leçons en matière d'assainissement public. Alors, pour ce qui est particulièrement du FONER,
oui.
Moi, je crois que c'était même ici, à Radio Capi, que j'avais mis en doute, j'avais mis quelques réserves,
oui.
Sur, d'abord, la capacité de cette entité à prélever ce que moi j'appelle carrément des taxes et des redevances pour le compte de l'État, même si ces taxes doivent aller dans disons, dans le sens de la reconstruction nationale, mais je pense que c'est l'impôt. Et l'impôt doit être collecté par une administration fiscale, il en existe trois, et cet argent doit être canalisé vers le trésor public. Cette cacophonie-là, aujourd'hui, eh bien, nous l'avions prévu, et nous avions même prévenu il y a quelque temps cela. Et pour terminer, c'est vrai qu'on a souvent changé les responsables de l'office, c'est vrai qu'on décrit, mais quels sont les moyens que l'État met à la disposition de l'office de route pour qu'elle soit opérationnelle? Pas assez.
C'est ça aussi, de l'autre côté, l'État doit prendre en charge certaines, doit s'occuper de ces entreprises.
Mais on ne peut pas demander à une entreprise, on dit que la plus belle femme ne donne que ce qu'elle a. Comment voulez-vous qu'une entreprise qui vit avec des subventions qui viennent de façon hypothétique, cette entreprise ne sait même pas faire un plan de travail annuel, comment cette entreprise va-t-elle financer des projets quand elle dépend? Pour le cas ici, l'entreprise dépend du Foner, donc c'est du bon vouloir du Foner. Et puis aujourd'hui, le travail qui consiste à évaluer le coût total de ces taxes routières n'a pas été fait. Donc 850 000 dollars, quel est le coût?
Sur base de quoi, on ne sait pas.
Les défis estimatifs total, si c'est 50, je prends une hypothèse simple, 10 millions de dollars, et qu'on donne 850 000, ça peut-être que cette route va faire 5 ans ou une année. Donc on est dans ce que moi j'appelle finalement de l'empirisme, c'est malheureusement comme ça que l'État est géré jusque au niveau les plus élevés.
Deuxième dossier de la semaine, l'Office congolais de contrôle a présenté aux opérateurs économiques mardi à Kinshasa son document intitulé « Tarif général des prestations ». Paul Matindo.
C'était au siège de la FEC, c'est le recueil selon l'OCC de toutes les réglementations éparses des frais que perçoit l'office mis ensemble. Cependant, cette présentation n'a pas fait l'unanimité entre les deux parties. Daniel Tamizoni pour plus de détails.
Le tarif général des prestations OCC n'est pas une nouvelle tarification que l'Office met en place, a insisté le directeur général adjoint de l'Office. Le document présenté ce jour, vendu à 50 dollars américains la pièce, reprend et met tout simplement ensemble tous les différents tarifs un peu éparpillés. Maurice Mbayo a déclaré que c'est dans le souci de plus de transparence dans les rapports commerciaux que cet ouvrage a été initié. Le président de la FEC, en charge de petites et moyennes entreprises et commerces, a émis des réserves quant à la mise en application du contenu de ces documents. Dieudonné Kassembo.
C'était une séance de présentation de ces tarifs. Lequel tarif, nous l'avons vu seulement au moment de la présentation. Mais pour nous, nous disons, il ne faudrait pas que nous puissions engager les opérateurs économiques sur un document dont nous ne connaissons pas les contenus. Vous devez savoir que dans notre fédération, il y a plusieurs secteurs confondus. Il faudrait que chaque secteur concerné puisse émettre un avis pour qu'on vérifie est-ce que le tarif qu'il va payer aujourd'hui sera le même que ce qu'il payait avant. C'est comme ça que nous avons émis ces réserves pour dire que nous, voilà, nous laissons la possibilité aux opérateurs économiques de pénétrer d'abord le document et qu'ils nous donnent leur position. À ce moment-là, nous allons voir s'il n'y a pas eu d'accroissement, il n'y a pas eu de variation. À ce moment-là, il n'y aura pas de problème.
Le CC rassure que ce n'est pas un nouveau tarif.
Non, mais nous vous disons par exemple, quand vous avez là-dedans certains articles qui ne payaient pas hier, par exemple les barres de fer, on a fait faire une petite gymnastique à nos collaborateurs qui ont dégagé qu'il y a des écarts par rapport à l'ancien tarif.
L'application du contenu du tarif général des prestations OCC n'est pas à discuter puisqu'il n'apporte aucun changement à ce qui se faisait avant, réagit l'OCC.
Il ne s'agit pas d'un nouveau tarif. Il y a peut-être par-ci par-là des petites corrections, mais en gros, c'est l'inventaire du tarif existant que nous mettons à votre disposition au lieu d'avoir des petites notes éparses qu'on sort d'un tiroir et qu'on vous communique comme reprenant les frais OCC.
Une autre rencontre se tiendra dans un temps à fixer, le temps pour les opérateurs économiques de prendre connaissance du dit document.
Merci Daniel et bon week-end. Tati Ntsungani, comment vous jugez ce scepticisme des opérateurs économiques? On leur présente un recueil qui reprend toutes les prestations mises ensemble, mais ils sont sceptiques. Ils ne semblent pas trop avoir confiance en cet office qui est leur partenaire.
Vous êtes tendre lorsque vous parlez de scepticisme. Ils sont carrément rejetés, d'après ce que j'ai cru entendre. Le président de cette corporation de la FEC a tout simplement rejeté. Je pense que tout en comprenant son attitude, parce que il faut certainement éviter qu'il y ait des taxes nouvelles qui soient créées.
Qui se glissent.
Oui, et qui vont peut-être à la longue surenchérir les frais généraux que les opérateurs économiques supportent lors de l'entrée, notamment des produits dans les frontières congolaises. Mais ce que je voudrais dire, c'est que l'OCC est un des quatre intervenants aux frontières. Et je pense que lorsque l'État, même lorsqu'il institue des nouvelles taxes et redevances, il n'a pas à demander l'avis des opérateurs économiques. Je suis désolé, il s'agit quand même de l'exercice de la puissance publique. Maintenant, c'est vrai que l'État et la FEC doivent évoluer en partenariat et qu'il doit avoir des échanges et des discussions. Je crois également qu'il faut quand même considérer que l'OCC est de bonne foi. La DGDA, pour ne pas la citer, a un grille tarifaire qu'on appelle le tarif qui concerne d'ailleurs les droits d'entrée aussi bien des produits importés que des droits des accises. Il est donc normal que tous ces droits, taxes et redevances soient regroupés dans un recueil qui permette justement aux opérateurs économiques de leur faciliter, le cas échéant, les paiements de cet impôt au moment où ils s'acquittent de cela. Donc je ne pense pas, à mon avis, que pour une fois la FEC a raison et que l'OCC a tort.
Troisième dossier de la semaine, nous l'avons tous appris. Le gouvernement a pris mardi dernier un certain nombre de mesures dans la ville de Matadi. Question pour lui de lutter contre les fraudes et les tracasseries et d'augmenter la fluidité dans les échanges aux postes frontaliers du Bas-Congo.
Paul. Oui, Agathe, il s'agit de la suspension du coordonnateur de la police des frontières, la radiation des agences en douane et civique, l'interdiction des cumuls de la qualité d'importateur et des commissionnaires en douane et la délocalisation à dehors du port de Matadi, des prélèvements des échantillons par l'Office congolais des contrôles. Guy Roger Niampala, l'un de nos correspondants dans cette ville du Bas-Congo.
Ces mesures en urgence ont été prises à l'issue de la visite qu'a effectuée le Premier ministre hier au port international de Matadi, visite dont ont pris part le membre de la délégation qui l'accompagnait, notamment les ministres de l'Intérieur, celui du Budget, de l'Économie et Commerce, des Transports et Voies de Communication, de l'Industrie, Petites et Moyennes Entreprises, ainsi que le ministre délégué aux Finances. Selon Matata Pogno, il est constaté à ce jour un engorgement du port de Matadi, devenu en outre un des ports les plus chers du monde. Autre chose, un fonctionnement peu optimal du guichet unique, la restauration des perceptions illégales, la multiplicité des services aux frontières. Au regard de ce tableau, Matata Pogno a indiqué que désormais, les radars du gouvernement sont braqués sur le port international de Matadi. Outre ces mesures que le Premier ministre a qualifiées de préliminaires, le gouvernement a également suspendu le coordonnateur provincial de la police aux frontières du Bas-Congo. Les frais d'escorte perçus par l'Office congolais de contrôle sont supprimés, lesquels, selon le communiqué officiel lu par le ministre en charge de Finances, viole la législation douanière et la bonne pratique internationale. Il est question d'éradiquer les fraudes et les tracasseries afin d'augmenter la fluidité dans les échanges commerciaux et les recettes douanières. Depuis la ville de Matadi, Guy Roger Niampala, Écho d'économie.
Tati Tungani, est-ce que vous pensez que c'est une énième mesure qui, comme peut-être d'autres qui ont précédé, risque de ne pas avoir les effets escomptés?
Malheureusement, oui. Vous savez, j'ai envie de dire que c'est une vieille rengaine. On connaît cette chanson, nous l'avons entendue plusieurs fois. Mais bon, comme tout s'accorde à le dire, il faut peut-être donner une chance à Matata Pogno, qui, me semble-t-il, donne l'impression d'être à bien des égards un petit peu plus efficace que ses prédécesseurs. Mais je voudrais simplement rappeler qu'il y a un décret présidentiel qui fixe à 4 les services qui interviennent aux frontières. Je crois que c'était la première des choses à faire appliquer et ça pose problème. Ensuite, le fonctionnement du guichet unique pose problème simplement parce qu'il y a ceux qui devraient y travailler, se chamaillent, notamment l'OCC et la DGDA. Pour ne citer que cela est accessoirement l'ONATRA et je pense à notre structure, la SONAS. Maintenant, est-ce que le Premier ministre ne peut pas, puisqu'il en a l'autorité, faire en sorte qu'il n'y ait qu'un seul responsable, désigné par un décret présidentiel, encore une fois, c'est la douane. Comment amener les autres à respecter l'autorité de la douane? Parce qu'aujourd'hui, il y a des entreprises de l'État qui méconnaissent à la douane son autorité en tant que patron du guichet unique. C'est aussi un problème. Et ensuite, j'aimerais aussi dire que le port de Matadi, à l'origine, c'est un port de transit. Ça n'a pas été fait pour que les marchandises qui franchissent la frontière nationale puissent y être dédouanées. Ce n'est qu'un port de transit. On ne doit pas s'étonner aujourd'hui.
D'où l'engorgement.
Absolument, parce que les infrastructures qui existent au port de Matadi, le port de Matadi a été construit dans sa forme actuelle en 1940. Et donc, ce port n'a pas été conçu, comme je l'ai dit, pour, disons, y voir des marchandises être dédouanées. C'est juste un port de débarquement, un port de transit, où les marchandises doivent être acheminées vers leur lieu définitif de consommation ou, disons, de réexportation. Oui, oui. Et donc, aujourd'hui, cet engorgement est, disons, lié à, au fonctionnement que l'on a finalement attribué à ce port qui, à l'origine, comme je l'ai dit, n'avait pas été, disons, conçu pour cela. Il y a un autre problème qui a été soulevé, c'est le problème de la cherté de ce port. Mais cela, encore une fois, n'est pas étonnant, parce que il y a un projet qui est en cours, qui était à un moment donné en cours de discussion. C'est le projet de création, de construction d'un port en eau profonde à Banana.
Oui.
Mais jusqu'à ce jour, on ne nous dit pas ce qu'il en est, alors qu'il y a un groupe international qui s'était offert pour financer, un groupe coréen, si je ne m'abuse, pour financer la construction de ce port. Parce que quand un port se trouve sur les côtes et donne accès directement sur la mer, eh bien les coûts de déchargement et de stevedoring, ainsi que de chargement, de réchargement, de réembarquement, sont moins importants que si le port se situe dans un estuaire, comme c'est le cas
du port de Matadi.
Il y a des bateaux qui sont obligés d'entrer et de venir. Et quand il y a un bateau qui décharge, le bateau qui entre est obligé d'attendre, soit en haute mer, soit dans un autre bras de l'estuaire, et ce sont des charges supplémentaires qui viennent encore une fois s'incorporer dans les charges habituelles de dédouanement. Et comme vous le savez, les opérateurs économiques n'ont pas de problème. Ils répercutent tout cela
sur le consommateur,
sur le prix, le coût de revient des produits, et c'est les consommateurs qui, toutes choses restantes égales par ailleurs, supportent cela, alors que nous sommes dans un pays où le pouvoir d'achat ne change pas. Donc je crois que, bon, en résumé, nous faisons confiance, nous sommes de bonne foi, nous accordons le bénéfice du doute au Premier ministre, et nous nous réservons le droit, dans les prochaines émissions, d'évaluer pour savoir si, encore une fois, il a fait comme ses prédécesseurs.
Oui, mais une mesure comme celle de suspendre le coordonnateur de la police, c'est tout de même une mesure assez courageuse.
Le courage aurait été justement de l'enlever, pas de le suspendre.
Le quatrième dossier de la semaine, Paul Matendo.
Le moratoire accordé aux opérateurs économiques expatriés de ne plus pratiquer le petit commerce a expiré dimanche dernier. Le ministre de l'économie et commerce a tenu mercredi à Kinshasa une réunion d'évaluation de cette mesure. Les différents syndicats des vendeurs ont relevé que la mesure n'était pas respectée. Ils se sont interrogés sur les mesures que prendra l'autorité au vu de cette violation de la loi. Agathe Pona Elema.
Jean-Paul Nemoyato, ministre de l'économie et commerce, l'a affirmé. Le moratoire de 30 jours publié le 22 juin dernier avait un but pédagogique. Il consistait à approcher les opérateurs économiques expatriés et leur expliquer cette loi. Il s'est ainsi rendu compte que la plupart des commerçants expatriés qui pratiquent le petit commerce n'étaient pas au courant de cette loi et surtout qu'il s'avère nécessaire de définir en termes clairs pour chaque produit ce qu'on entend par commerce de gros, de demi-gros et de détail. Tout en précisant que le moratoire avait pris fin effectivement le 22 juin dernier, il a institué une commission qui, pendant 10 jours, élaborera une nomenclature claire et opposable à tous. Il a expliqué à la centaine de vendeurs présents à la réunion qu'il s'agissait d'une mesure d'accompagnement nécessaire vu que les autres moratoires accordés par ses prédécesseurs comportaient plusieurs faiblesses. En attendant, à propos des produits pour lesquels on comprend clairement ce qu'on entend par commerce de gros, de demi-gros et de détail, les opérateurs économiques expatriés n'ont pas d'autre choix que de se plier à la loi. Un moratoire qui s'est achevé le 22 juillet, mais qui est en train, si on peut le dire, d'être prolongé tacitement, mais bon, disons pour de bonnes causes, pour clarifier la nomenclature. Qu'est-ce que vous en pensez?
Mais comme je l'ai dit pour le cas du port de Matadi, ben je pense que ce sont des mesures déjà vues, déjà entendues, déjà vécues, et que ce n'est qu'un rappel de l'insuffisance, l'incapacité de tous les gouvernements qui ont précédé celui-ci à faire appliquer la loi. La loi sur le petit commerce existe depuis une quarantaine d'années. Aucun ministre de l'économie, aucun premier ministre, aucun gouvernement
n'a réussi
aucun
à la faire respecter.
Aucun. Depuis 40 ans, aucun, sans exception, aucun n'a été en mesure de la faire respecter. Alors, si le gouvernement actuel fait exception, nous ne pourrons que saluer. La mesure est bonne, y compris la mesure prise par le ministre de l'économie de pouvoir éditer une nomenclature, je pense que, et y compris également d'expliquer à ces opérateurs économiques le bien fondé de cette décision, parce que c'est une loi qui ne doit que être appliquée, on n'a rien inventé. Mais je reviens toujours à cette interrogation, c'est que quelle est l'efficacité de tout ce qui est en train d'être fait? Parce que dans le monde entier, madame, le petit commerce est exercé par les autochtones, même dans des petits pays d'Afrique. Est-ce que est-ce que ce gouvernement saura demander aux Chinois, ce que nous voyons au grand marché vendre des beignets, arrêter de le faire? Moi, je crains malheureusement, je ne suis pas pessimiste, mais je me dis qu'on a toujours eu des effets d'annonce sans vraiment des résultats probants. Si ce gouvernement réussit à le faire, eh bien le gouvernement Matata aura en tout cas le mérite d'avoir réussi à faire appliquer la loi. C'est ce que nous tous nous souhaitons.
Qu'est-ce qu'il faut pour arriver finalement à bout de cette situation?
Les hommes, madame. Il faut des hommes. Il faut des hommes qui sachent faire appliquer la loi. Et ces hommes, malheureusement, existent. Heureusement, existent. Mais malheureusement, une fois qu'on a identifié des hommes capables de faire appliquer des lois, eh bien, on les met souvent, ils sont soit de côté, soit ils sont combattus. Je crois que ce pays n'a pas que des médiocres et des piètres. Il y a des hommes et des femmes qui sont capables de faire appliquer des lois. On les voit, mais ils sont pas très nombreux et ils sont souvent combattus. Et si Monsieur Matata et son gouvernement est en mesure de nous démontrer qu'ils sont capables de le faire, je vous assure que je serai le premier à venir applaudir ce gouvernement ici à la chaîne Radio Capi. Mais jusque-là, permettez-moi quand même de douter de ce qui peut être fait, parce qu'on a beaucoup entendu.
Beaucoup de promesses, beaucoup d'annonces.
Ah oui, mais malheureusement, nous n'avons jusque-là rien vu.
Le peuple congolais a donc soif d'actions concrètes.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30, heure de Kinshasa, Radio Capi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Quelques nouvelles en bref à Kasumbalesa au Katanga. Les changeurs de monnaie expriment leur inquiétude sur la nouvelle taxe hebdomadaire instaurée par le bureau de la cité.
Selon ses cambistes, le chef de cité exige à chacun de payer 1000 francs congolais. Les changeurs affirment que certains d'entre eux qui n'ont pas payé cet argent le week-end dernier ont vu leur tablette de service ravie par les agents percepteurs. De son côté, le responsable du bureau de Kasumbalesa est resté injoignable.
Au Kasaï occidental, une délégation d'experts américains est arrivée cette semaine à Kananga, objectif, explorer le secteur de l'agro-industrie.
Pendant une semaine, cette délégation s'est déployée sur plusieurs sites ciblés pour y mener des études de faisabilité. Des études qui vont se focaliser sur l'agriculture, la production du lait à base du soja et l'exploitation minière. Parmi ces sites se trouvent entre autres Bunkonde et Lubondai dans le territoire d'Edibaya.
Tenue mardi dernier de la première conférence économique des commerçants de Mambasa, territoire situé à 168 km au sud de Bounia en Ituri.
50 opérateurs venus de 21 centres de négoce ont pris part à cette conférence. Selon Mukama Moussavouli, président de l'AFEC, ce forum a permis d'examiner toutes les contraintes auxquelles ils font face, mais aussi de réunir tous les chefs des services générateurs de recettes de l'État.
Et voilà, Tati, est-ce que vous avez un ou deux commentaires à placer sur l'une ou l'autre de ces informations?
Non, mais lorsque je vois des taxes qui sont instituées et perçues à Kasumbalesa, ça me fait poser des questions, parce que c'est l'État qui institue et qui perçoit les taxes, ou en tous les cas des entités administratives décentralisées comme la province. Malheureusement, nous avons des rois telés qui s'imposent comme ça quelque part. Et
le chef de cité.
Absolument, et qui, parce qu'ils n'ont pas reçu mandat de l'État de pouvoir instituer et y compris prélever les taxes. Et pour ce qui est de Kananga, moi je salue que les investisseurs viennent pour l'agro-industrie, mais ce qu'on a toujours remarqué, c'est qu'ils viennent pour l'agriculture, pour l'industrie, et puis on se rend compte que c'est des miniers. Alors j'espère qu'au moins cette fois-ci, ils vont vraiment faire l'agriculture, parce que la province du Kasaï occidental était un des greniers de ce pays à l'époque du Congo belge. Espérons que cette vocation va revenir avec le concours de ces opérateurs économiques.
Panorama économique, matière première.
La rubrique matières premières nous conduit au Kasaï oriental où la production de la minière de Bakwanga Miba est dans sa phase de croissance.
Il est passé du simple au double, soit près de 70 000 carats pour le seul mois de juillet. Une croissance justifiée par l'augmentation du volume du minerai et de leur teneur. Cet exploit est considéré par les comités dirigeants et le personnel comme un nouveau départ pour cette entreprise. Nikem Poutou.
Pour illustrer cette croissance, le comité de gestion de la MIBA se base sur sa production mensuelle moyenne. Celle-ci est passée de 25 000 carats le mois en 2011 à 50 000 carats durant les 6 derniers mois de l'année 2012, soit de 500 000 dollars américains à 1 million. Le comité de gestion avoue que si ce rythme se maintient, le mois de juillet peut être considéré comme le mois à forte production, puisqu'à sa fin, l'entreprise aura atteint 70 000 carats ou plus d'un million de dollars américains. Ces exploits de la MIBA sont dus d'une part à la réhabilitation de ses engins. Sur fonds propres, l'entreprise a réussi à accroître le nombre de ses camions Ben. Aussi, l'entreprise intervient à Dibindi Terrasse, une zone à forte teneur. Cette viabilité a un impact sur la vie de l'entreprise, notamment sur les salaires. En l'absence des subsides de l'État, l'entreprise assure tout de même 80% des salaires et compte faire mieux. Cependant, malgré ses efforts, certains experts continuent à croire que ces nouvelles tendances ne peuvent pas couvrir tout le besoin de la MIBA. Mbujimayi Nikemputu, Radio Okapi.
Voilà, la MIBA qui, on vient de le constater, est en train de voir sa production croître. C'est tout de même encourageant pour cette entreprise et pour les finances publiques.
Oui, pour l'entreprise d'abord, pour le pays, peut-être pour la région ou la sous-région ensuite. Mais on souhaitait quand même rappeler que la MIBA a soutenu le fort de guerre dans ce pays et d'une façon pratiquement, j'allais dire, héroïque, parce qu'elle était quasiment la seule entreprise de l'État à centraliser ses retombées financières vers un effort de guerre. Et aujourd'hui, elle a pratiquement été abandonnée. Il y a eu beaucoup de restructurations qui ont été faites. Et je suis content qu'aujourd'hui, la politique du comité d'entreprise porte ses fruits. J'aimerais également signaler que la RDC est un pays minier. Mais on a comme l'impression que les retombées financières des exportations minières, qu'elles soient diamantifères ou autres, ne profitent pas toujours aux populations congolaises. Elles profitent, on dirait, aux multinationales, accessoirement au gouvernement et à des hommes forts du régime. Et ce qui serait bien, c'est que le minerai, le diamant appartient quand même à la RDC. Savez-vous que la ville de Mbujimayi a été construite par l'État belge à l'époque de la minière de Bakwanga? Toute cette ville-là, comment se fait-il qu'aujourd'hui, avec pratiquement le même potentiel minier, on est quasiment incapable de faire un petit projet de développement pour cette ville de Mbujimayi?
La population vit dans une pauvreté extrême.
Absolument. Et pourtant, à côté, il y a quand même du diamant qui est extrait de son sous-sol, qui alimente le marché international du diamant, et qu'alors qu'à côté de cela, les populations qui vivent quand même sur le diamant ne sentent pas cela. Je crois que, et même lorsqu'on va plus loin sur le budget de l'État, l'apport au budget de l'État est quasiment insignifiant par rapport à tout ce qui est produit. Donc cela revient à dire qu'il faut absolument revoir la gouvernance de ce pays de fond en comble, en mettant des institutions fortes plutôt que des hommes forts, mais aussi en prônant la méritocratie. Et là, nous interpellons encore une fois le gouvernement Matata qui nous donne des gages, je dis bien des gages de bonne gouvernance. Nous attendons de voir si, dans les faits, nous aurions raison de lui faire confiance, ou tort.
Et voilà que prend fin le panorama économique de ce week-end. Merci à Tati Nsungani qui a accepté notre invitation à cette émission. Merci à vous, Paul Matendo, qui nous avait accompagnés. Tati, un mot?
Je vous remercie pour l'invitation.
Merci à Alain Goy qui tenait la technique. Retrouvez votre émission Écho d'économie du lundi au vendredi à partir de 18h15, heure de Kinshasa. Panorama économique, ce sera pour le samedi prochain, 12h30, heure de la capitale. Mais d'ici là, passez un bon week-end en compagnie des programmes de votre radio.